Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Salut à tous, très heureux de vous retrouver pour la seconde partie de cette FAQ du quart de la saison. Madiane est toujours avec moi, comment ça va Madiane?
Eh ben ça va très bien, mieux que l'OM en tout cas.
Ça c'est la meilleure chose à dire, mieux que l'OM. Alors on est toujours ensemble dans la première partie qu'on vous invite à aller écouter si vous ne l'avez pas fait. On a parlé quoi? Du Jazz, joueur sous-coté, j'ai un peu pété un plomb sur les Knicks, je vais être honnête. Et on va discuter cette fois-ci, on a encore plein de choses, un peu de hors-terrain, un peu de philosophie NBA. Enfin, il y a pas mal de choses encore une fois à discuter. Comme d'habitude, on vous invite à nous suivre sur Twitter, surtout à nous suivre sur les plateformes où vous écoutez le podcast, si c'est Apple Podcast 5 étoiles, et puis surtout à nous suivre sur YouTube, à nous écouter sur YouTube, bref, à investir dans le placement, comme un peu dans les bitcoins, investissez dans le Dunk Hebdo sur YouTube. Nous, on va marquer une petite pause, et puis on se retrouve dans quelques secondes, et on va partir du côté, alors d'habitude c'est le Nord, c'est le Canada, mais cette fois-ci, ils sont dans le sud des États-Unis. Donc, on va partir du côté de Tampa Bay pour parler un peu des Raptors. Question sur les Raptors de Gabin le Rookie. Salut l'équipe, est-ce que vous pensez que les Raptors doivent trader Laurie pour un pivot défensif? Si oui, quel pivot? Alors déjà, question qui sous-entend, faut-il trader, qui sous-entend déjà que si on trade Laurie, on sait déjà contre quoi. T'en penses quoi, tout ça de Madiane? De tout ça, Madiane?
En fait, je ne vois pas le but de tout ça. En fait, les Raptors sont dans une mauvaise saison, ils sont actuellement 12e, ça tourne pas comme ils le souhaiteraient, l'équipe est pas très belle à voir jouer, ça, de toute façon, tout le monde peut s'accorder là-dessus. Et moi, quand je vois un trade, j'essaie de voir de l'intérêt. Soit c'est on s'améliore pour tenter quelque chose, soit c'est on essaye d'arranger, c'est de faire coïncider certaines fins de contrat avec certains moments d'intersaison. Enfin, il y a plusieurs objectifs. Et là, je ne comprends pas l'objectif du trade, parce qu'en fait, moi, je vois qu'il y a deux pivots. Baines et Boucher. Je trouve d'ailleurs que Boucher fait une saison qui est tout à fait condamnable au but du peu de temps de jeu qu'il a, alors je me demande ce que ça donnerait si on le faisait commencer les matchs, etc. Je pense que Tom serait ravi de cette perspective, étant donné que je parle d'un de ses sous-chouchous. Mais pourquoi faire en fait? Pourquoi est-ce que t'enlèverais Laurie pour un pivot? Qui plus est, pourquoi un pivot défensif? Quel serait le but du coup d'avoir un pivot défensif avant tout? Est-ce que tu tenterais pas, par exemple, de développer un Chris Boucher dans ce cas que tu as déjà chez toi? C'est pour ça que j'ai du mal à comprendre l'intérêt, mais du coup, je te laisse, peut-être que tu vas m'ouvrir d'autres perspectives.
Alors moi, je te l'ai dit, c'est une des questions, je pense, où on est le moins d'accord. Moi, j'ai déjà, je pense, l'idée un peu, pas de service rendu, c'est pas un soldat, hein, mais pour moi, il y a peut-être l'idée déjà que le cycle de Kyle Lowry, il est terminé et que tous les membres de ce cycle-là, que ça soit, on a vu Ibaka, Gasol, etc., sont partis. C'est là, on l'a dit, il y a cette perspective peut-être d'une fin d'ère Masai Ujiri. Il faut pas oublier que le general manager, aussi Bobby Webster, est aussi en fin de contrat. Donc en fait, je pense qu'il y a une symbolique aussi à se dire, on le trade peut-être pour un contender, pour une grosse équipe, pour un prétendant, en se disant, voilà, pour service rendu, c'est un joueur qui a passé la trentaine, là où Siakam, Van Vliet, Anunoby, Powell ont tous entre 23 et 27. Donc, en fait, c'est pas du tout la même phase de carrière. Il y a peut-être cette idée-là. C'est aussi se dire qu'on a investi sur, je pense qu'il y a aussi toujours cette volonté qui est prenante, je pense, chez tous les fans NBA, et même chez nous, je pense, c'est de se dire, je perds jamais un joueur contre rien, parce que c'est pas sûr que Kyle Lowry reste, je pense, la saison prochaine, je pense pas qu'il soit enclin à continuer dans une équipe où les perspectives sont peut-être pas celles de jouer les premiers rôles. Après, c'est vrai que Chris Boucher fait des bonnes choses, mais Chris Boucher, son contrat est déjà plus garanti la saison prochaine. Alors certes, tu peux le garder, ensuite, faudra commencer à le payer, en fait, si t'en fais ton pivot titulaire. Et je pense quand même qu'il y a très peu de volume, en fait, de jeu. Alors, il est très intéressant, mais je comprends l'idée du pivot défensif, je comprends l'idée de trader Lowry. Seul problème, à chaque fois, un trade, il faut deux parties. Contender sans gros meneur, pour moi, il y a que les Clippers, mais je vois pas pourquoi ils iraient chercher Lowry. Pour moi, il y a une piste, la piste la plus crédible, c'est pas un contender, c'est le Magic. Parce que Cole Anthony reste un rookie, Markel Fultz s'est blessé. Pour une fin de saison où tu peux essayer d'accrocher les playoffs, pourquoi pas. Ça pourrait coller. À la place, tu pourrais récupérer quelque chose, peut-être des tours de draft, mais surtout Mo Bamba, qui, je pense, Toronto pourrait essayer de le relancer, parce que c'est un joueur qui a joué 13 minutes cette saison et totalement perdu. Enfin, bref, il faudrait le relancer. Qui s'est fait dépasser par Ken Birch, que Tom apprécie aussi. Donc je pense que ça se défend, en fait. Pour moi, c'est vraiment marquer la fin du cycle. Ça se défend vraiment. T'as payé Van Vliet pour être ton meneur titulaire. Il te sert plus vraiment à grand chose, Lowry. J'ai lu ça partout, hein. C'est le Raptor le plus important de leur histoire, selon eux. Mais peut-être temps de tourner la page.
Non, mais pourquoi pas? Comme dit, en fait, si c'est pour service rendu, ça peut s'entendre. Après, est-ce qu'il y a vraiment un profond intérêt à le trader? Non. Alors, dans ce cas-là, ce serait plutôt parce que c'est bien pour lui, que peut-être il y a effectivement laissé la place dans le vestiaire à d'autres personnes pour émerger. Ça peut s'entendre, mais c'est vrai qu'en sur le terrain, en tout cas, il n'y aurait pas du grade magnifique à trader Kyle Lowry, il n'y aurait pas d'intérêt énorme. Après, s'il trouve un terrain d'entente très intéressant pour tout le monde, que Kyle Lowry est partant pour partir, si tout le monde est gagnant, il n'y a aucun intérêt. À chaque fois qu'un deal se fera, de toute façon, c'est quand tout le monde y trouve son intérêt. Alors, rarement les joueurs y trouvent le leur tout le temps, sauf quand ils ont demandé à partir.
Sauf quand
mais
ils sont
en tout cas. Voilà, c'est ça, sauf quand t'es super rare, mais dans ce cas-là, Lowry, s'il s'entend avec son front office, ça peut s'envisager sous cet angle-là.
Rappelons que, on l'a sous-entendu, mais les free agents, il a 30 millions, ce qui est quand même une vraie, il a pas de trade kicker à 15% comme des mecs comme Bradley Beal, hein, qui en plus te coûtera plus cher, hein, ça je passe ça entre parenthèses, mais oui, enfin, en fait, idéalement, je comprends, j'ai juste du mal à voir l'intérêt profond, et surtout pour qui, en fait, où tu vois. Bamba, c'est une pièce à la mer, mais bien sûr ça sera pas centré autour de Bamba, parce que tu traites pas un all-star pour Bamba. Enfin, je comprends parfaitement qu'on ne m'assassine pas du côté de Tampa Bay, mais voilà, je pense que ça peut être une solution. On continue avec justement l'équipe que j'ai citée comme potentiellement intéressée, mais qui selon moi ne fera pas le move, les Clippers. Question de Jakob Gott, probablement. Je suis désolé si c'est mal prononcé. On a beaucoup caricaturé Golden State comme une équipe de jump shooter, mais est-ce que finalement les Clippers ne rentrent pas dans ce stéréotype, avec un spacing toujours impeccable et très peu de joueurs capables d'aller au cercle? Alors, t'en penses quoi du jeu des Clippers sous Ty Lue, qui sont très forts en attaque? Je crois que c'est la deuxième attaque à l'heure actuelle en NBA.
Moi, je trouve que, au vu de tous les ajustements qu'ils font, enfin, il y a plein de choses qui ont changé, je les ai trouvés très intéressants. Déjà, ils ont équilibré, leur 5 de départ et leur bench. Et là, il faut pas se mentir, Batum est un joueur très intéressant dans leur 5 de départ. Peut-être moins sur leur banc. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui va ne pas vouloir être avec la balle dans les mains, enfin être plus en retrait, ça ne le dérange pas. C'est quelqu'un qui va faire des choses que les autres ne veulent pas faire, et il est typiquement à un poste où il peut aller prendre des joueurs défensivement, peut-être pour laisser Kawhi ou Paul George un peu plus tranquille, entre guillemets. Donc c'est un joueur qui accepte volontairement tout ce qu'on lui donne, même si c'est des tâches ingrates. Et du coup, déjà, je trouve que ça, c'est la première innovation très intéressante. Après, au niveau de la mise en place, moi, je pense que déjà, il n'y a plus Harrell dans leur effectif. Et que ça, mine de rien, Harrell, c'est le bully au cercle. C'est le mec qui va te finir les actions au cercle. Et forcément, le fait qu'il ne soit pas là cette saison fait que tu as cette sensation-là. Après, moi, j'ai pas l'impression spécialement que c'est une équipe qui n'ira pas au cercle en permanence. Je pense que justement, ils s'accordent des accès au cercle plus faciles parce que ce sont des menaces extérieures très présentes en permanence. Donc, j'ai pas l'impression que ce soit une caricature. J'ai l'impression qu'en fait, ils sont dangereux en extérieur. Du coup, on les ouvre pas à l'extérieur. Donc, ils ont des choses plus faciles à l'intérieur. Mais c'est vrai qu'ils ne martèlent pas dessus. Moi, j'ai plutôt cette sensation-là en les regardant.
Moi, j'ai vraiment l'impression qu'en fait, Lou, il a mis, et j'ai vu pas mal de déclats d'un peu, beaucoup de joueurs des Clippers qui ont dit qu'en fait, c'est simple, mais drive and kick, en fait. Drive and kick tout le temps. On voit les Clippers au niveau des tirs au panier, ils sont 27e en NBA. C'est une équipe qui tire très peu au panier. En termes de quantité, hein, 27e en NBA, 26,4%. Oui, je corrige juste un truc. Je vois beaucoup, je mets en garde nos auditeurs. Dans ce genre de cas, faut toujours utiliser les pourcentages. Je vois qu'il y a souvent, je lis parfois des tweets où on utilise le nombre de shoots bruts, sauf qu'en fait, c'est pas du tout crédible vu que certaines attaques prennent plus de shoots que d'autres. Bref. Donc en fait, ils sont à 26% de leurs tirs pris au cercle. La moyenne NBA, c'est un tiers en gros. Donc ils sont un peu en dessous. Le truc, c'est qu'ils sont premiers en réussite, en fait. Ils sont à 70% au cercle. Ils mettent tout au cercle. Donc, en fait, pour moi, c'est assez simple. Ils représentent une telle menace au cercle qu'ils drive and kick constamment. Et ils ont l'avantage d'avoir, rien que dans leur 5 de départ, ils ont que des mecs qui peuvent passer la balle. Ibaka, Batum, Beverley, George. Ils peuvent tous faire l'extra passe. Kawhi, bien sûr. Même sur leur banc, ils ont des mecs qui peuvent faire cette extra passe. Donc, c'est surprenant peut-être le niveau actuel. Parce qu'on parle d'une équipe qui a 45% en catch and shoot à 3 points, tu vois, c'est des trucs totalement irréels. Utah est deuxième, ils sont à 41 et quelques, enfin, il y a 3 points d'écart, c'est n'importe quoi. Et ils sont à l'heure actuelle sur les bases de la troisième saison de l'histoire au pourcentage à 3 points. Donc, c'est-à-dire qu'ils mettent tout. Mais est-ce que c'est vraiment surprenant quand tu donnes des 3 points ouverts, parce que c'est l'équipe qui a le plus de 3 points ouverts, à Paul George, à Kawhi Leonard, à Luke Kennard, à Batum, certes Batum qui est, je pense, peut-être un peu en sur-régime, mais ça à voir. Non, en fait. Donc, pour répondre à la question, c'est une équipe de jump shooter, mais en fait, vu qu'il y a une telle menace à l'intérieur, ça marchera, en fait. Enfin, moi, clairement, hein, si les Clippers continuent à être comme ça en attaque, je suis pas loin de les mettre au même niveau que les Lakers. Tu peux pas arrêter cette équipe, et en défense, pour l'instant, ils sont pas bons en rating, c'est tout simplement parce qu'ils sont pas investis. Tu sais parfaitement quand t'as George Leonard, ce 5-là peut faire très mal en défense.
Ouais, c'est marrant parce qu'en fait tu j'ai l'impression d'être dans l'œuf ou la poule. Moi, j'ai l'impression qu'ils sont une telle menace extérieure qu'ils arrivent à prendre des points faciles dans la peinture et qu'ils prennent du coup très peu mais avec beaucoup d'efficacité. Et toi, tu prends le truc à l'envers en disant ils sont tellement efficaces dans la peinture qu'on les laisse pas y aller et du coup on leur laisse les shoots extérieurs, ce qui fait qu'ils sont moins à l'extérieur. Moi, j'ai l'impression que les deux raisonnements ont l'air de se tenir.
Bah, en fait, moi, je me dis que c'est... Je veux pas dépendre mon beefsteak, mais parce qu'en fait, ils ont peu de pull-up. Ils ont peu de pull-up shooter, en fait. Donc, ça expliquerait pourquoi, si t'es dangereux, ça se mettrait en... J'avais lu un article sur ça, où en fait, c'est l'équipe où il y a la plus grosse différence au tir entre les catch and shoot et les pull-up, en fait. Où genre, catch and shoot, ils sont... pull-up, ils sont solides. Catch and shoot, ils sont incandescents. Et en fait, je pense que ça s'explique comme ça, en fait. Je pense vraiment que ils écartent tellement le terrain, tellement de terrain, ça se voit dans les actions, ils trouvent l'extra passe, ils sanctionnent. Après, peut-être que oui, c'est sûr que quand t'alignes Ibaka, Batum, Beverley, George, Leonard, concrètement, il n'y a personne que tu dois laisser tout seul à 3 points, donc c'est compliqué.
Ouais. Mais moi, ce qui serait intéressant, du coup, parce que, cette discussion me donne envie de faire quelque chose, je vais regarder ce que ça donne contre des fortes défenses à l'intérieur. Il faut que je fasse ça. Je pense que c'est quelque chose qui peut être intéressant. Regarder comment cette équipe se comporte face à des gens comme Utah qui vont aller te surcharger l'intérieur et te laisser plus volontairement des tirs. À voir.
Moi, en fait, enfin, par rapport à Utah, parce que on a parlé de Utah dans la première partie, par rapport à Utah, moi, je suis juste terrifié qu'en fait, Utah est incapable d'attaquer cette défense, en fait. Enfin, ils switchent partout. Ils peuvent pas les attaquer.
Oui, ça, c'est autre chose. Après, moi, je dis toujours que si t'as un fort arrière et il y a moyen de jouer sur Beverley, potentiellement, et que c'est c'est toujours peut-être une faille à exploiter. C'est triste de dire ça.
Les ouais, Beverley, je trouve, c'est un bon défenseur. Joueur sous-côté, on aurait pu parler des plus détestés. On a parlé des sous-côtés en première partie. Beverley, il est vraiment. Beverley reste un joueur solide. Enfin, ça va. Enfin.
C'est un joueur solide, mais si tu dois attaquer quelqu'un, je pense, quand t'es Utah, je crois que avec ton alternance à l'extérieur, c'est plutôt Beverley que tu dois aller chercher.
Mmh, bien sûr. Après, encore une fois, ils mettent une défense en switch. Si, bref, on ne revient pas sur le débat Utah, mais moi, ces Clippers là m'impressionnent. Et pour vraiment revenir à la question, c'est une équipe de jump shooter, mais s'ils restent comme ça, ils sont trop dangereux. La question, c'est de savoir est-ce que c'est réel ce qu'on voit en ce moment. Parce que si c'est vraiment réel, ils sont terrifiants. Hein. Parce que prendre une équipe avec ce potentiel défensif qui met du 41% à 3 points, bonne chance. Vraiment bonne chance. On va enchaîner. Alors là, on n'est pas dans les mêmes pourcentages à 3 points. Est-ce qu'on envoie les Wizards en Pro B ? Plus sérieusement, est-ce qu'on peut maintenant affirmer que Westbrook n'est pas compatible avec un autre fort joueur ? Ça commence à faire pas mal d'échecs là. C'est une question de Le Book Hack. Silence, je enchaîne. Ça peut paraître dur, mais Westbrook a-t-il encore le niveau d'un bon meneur titulaire ? On a souvent vanté sa capacité à élever le niveau plancher d'une équipe. Or, j'ai l'impression qu'un Curry de 33 ans élève plus le niveau plancher de son équipe que Prime Westbrook. C'est une question de Marcel Patulacci. J'espère qu'encore une fois, je le prononce très bien. En gros, là, c'est le moment Westbrook. C'est plus pour dire.
C'est l'instant Westbrook et.
L'instant Westbrook. Pour résumer ces deux questions intéressantes, est-ce qu'il est compatible avec quelqu'un et est-ce que c'est encore un bon meneur titulaire ? Bonne chance.
En fait, c'est moi la sensation que j'ai autour de Westbrook. On me dit oui, mais est-ce que Westbrook Prime, par exemple, moi en fait mon souci c'est que ce n'est pas Westbrook Prime et que j'ai la sensation qu'en fait Westbrook Prime est passé un petit moment déjà et qu'il n'est pas là et qu'à partir de là, bah malheureusement, il faut que Russell Westbrook baisse son usage pour avoir peut-être la suractivité, mais sur un plus court intervalle de temps. C'est un joueur suractif sur un terrain, mais le problème, c'est que il ne peut plus, je pense, rester à 30% d'usage comme il l'est actuellement, parce qu'il y a maintenant trop de déchets dans ce qu'il fait. En fait, il y a souvent une façon de mal concevoir ce que sont des joueurs comme Doncic, Harden, Westbrook, quand ils sont au sommet de leur usage, mettre autant de. En fait, de dire, il met 30 points par match, dire bon, 10 passes, mais c'est facile, t'as vu comment il a la balle. Je pense qu'il faut pas voir ça comme ça en disant, putain, le gars se fatigue à ce point dans toutes les possessions offensives de son équipe et il arrive quand même à compiler autant de stats. C'est-à-dire que son efficacité ne décroît pas trop au fur et à mesure de ses utilisations de la balle. Et j'ai l'impression que là, Westbrook use trop la balle par rapport à ce qu'il est capable de donner. Donc pour moi, Westbrook, là, ça joue chez lui. C'est qu'il faut qu'il comprenne que peut-être que son temps est passé, qu'il a 32 ans, qu'un tel jeu physique et surtout tant de saisons à faire ça, ben c'est peut-être beaucoup et qu'il faut qu'il peut-être descende à peut-être 20%, mais 20% avec mais beaucoup plus d'efficacité et d'énergie.
Comment renouveler, Madiane, pour prolonger ton raisonnement ? Comment il peut se renouveler, Russell Westbrook ? Parce que
se renouveler. Hein.
C'est ça, en fait. Comment il se renouvelle ?
Non, il doit faire la même chose, mais moins souvent. C'est ça le truc. Mais le problème, c'est que Westbrook n'est pas un assez bon tireur pour représenter quelque chose offensivement dans ton équipe sans qu'il ait la balle entre les mains. Donc, soit tu discutes avec lui pour lui baisser son temps de jeu et je te souhaite très bonne chance, soit il faut qu'il comprenne tout seul. Je sais pas. Mais en tout cas, sa situation est très préoccupante. On avait mis sur le compte du Covid-19 ses performances parfois inquiétantes dans la bulle. Là, malheureusement, je pense qu'il faut aller un peu plus loin et que peut-être que son temps est passé.
Moi, j'avais pas du tout souscrit à l'époque à cette théorie, c'est à cause du Covid, parce qu'en fait, c'était des trucs qu'on avait déjà vus, en fait. C'était des éléments de son jeu qu'on savait qui ont fait la grandeur de Westbrook à son époque, en fait. Moi, alors je vais un peu, ça va être un prolongement du constat qu'on avait fait avec Alan quand on avait fait les débuts de saison manqués. Première chose, Westbrook va plus au cercle. Enfin, Westbrook va plus au cercle. C'est un joueur qui, en gros, en carrière, 40% de ses tirs étaient au cercle. Il est descendu à 25%. Alors certes, il en met beaucoup au cercle. Je pense que c'est lié aussi aux Wizards. Pour eux, les avoir trop vus jouer en début de saison, les Wizards, c'est lié au fait qu'ils apportaient pas mal de spacing, quoi qu'on peut dire. Alors là, c'est en déliquescence totale, hein, mais ils apportaient pas mal de spacing. En fait, la question, c'est si Westbrook continue à prendre des longs deux qui met... Et encore une fois, de manière assez correcte, mais qu'il attaque plus le panier, qu'il n'est pas une menace off-ball, c'est compliqué, en fait. Honnêtement, c'est extrêmement compliqué. Son profil, c'est un peu un cauchemar. C'est un peu un cauchemar. C'est compliqué. Enfin, on parle souvent de ça, de l'efficacité au tir. L'efficacité au tir, quand tu utilises les stats de cleaning de glace, qui est un peu devenu la référence pour les stats en NBA, l'efficacité au tir, il est dans le 13e percentile. C'est, ouais. Comprenez, c'est-à-dire que 87% des joueurs NBA sont meilleurs que lui au tir. Je sais pas, en fait. J'ai pas de solution. Parce que ce qui fait l'attrait d'un Westbrook, c'est aussi son style de jeu. Donc, tu faut en faire quoi? Tu peux pas en faire un spot-up shooter de Westbrook. Enfin, si la
non,
solution.
Non, tu peux pas. Pour moi, la solution, en fait, tu ne peux pas lui enlever la balle des mains. Parce que, sans la balle, il sert pas à grand chose, offensivement. Après, peut-être que tu le couvres, mais franchement, c'est plutôt quelqu'un que tu vas laisser tirer. Et du coup, c'est pour ça que moi, j'ai l'impression que la meilleure solution, c'est de le laisser avec la balle, mais moins longtemps sur le terrain. Mais il faut le convaincre du bien fondé de tout ça. Et je suis pas sûr qu'il soit encore à ce stade, un peu comme un Melo qui a mis très longtemps à comprendre que son temps passait et qu'il ne pouvait plus exiger les mêmes choses qu'avant. Est-ce qu'il va être simple de dire à Westbrook, il faut que tu joues moins parce qu'il te faut la balle en main pour que tu sois efficace, mais là on voit bien que tu n'as plus la capacité à avoir la balle aussi longtemps en restant aussi efficace qu'avant.
Parce que même en pour un peu... Revenir un peu sur ce que j'ai dit, c'est vrai, il a la balle longtemps, il y a des stats qui montrent que, par exemple, elle est intéressante cette stat-là, qui montre que il a jamais autant pris de 3 points sans passe décisive, en fait. C'est-à-dire qu'en gros, tu comprends que c'est des 3 points qui viennent de séquences de dribble, en fait. Ce qui se passe beaucoup trop souvent parce qu'il a plus le premier pas pour éliminer. Il est certes toujours physique, mais je pense qu'il a plus le premier pas diabolique qu'il avait avant. Même son adresse à mi-distance commence à baisser avec les semaines, pour répondre à la question. Alors, par rapport à celle de l'association des stars, je pense qu'il faut se méfier parce qu'en fait, c'est des trucs qu'on a dit à pas mal de joueurs et c'est toujours compliqué à mettre en place parce qu'en fait, tout simplement, il y a des fois où c'est des styles qui matchent pas. Je pense qu'en vrai, Paul George, il a jamais rien dit de mauvais sur un Russell Westbrook et en l'occurrence, je pense que leur style allait bien ensemble.
Mais Paul George, avant sa blessure à l'épaule, est top 3 au MVP, hein.
Enfin, ça, tu peux pas lui retirer.
Oui. Et je suis désolé, mais Paul George, top 3 MVP, c'est très haut par rapport à... Enfin, j'ai l'impression que Paul George a été maximisé sur cette saison-là par Russell Westbrook, clairement.
Totalement. Donc,
ouais. Moi, je pense pas que Westbrook est incompatible avec quelqu'un d'autre. Le OKC qui perd face aux Warriors avec Durant, ils étaient très forts, hein. C'était incroyable. Ils étaient tellement forts. Ils doivent pas la perdre, cette série-là. Ils sont très, 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 très forts. Hein.
C'est peut-être ce Russell Westbrook-là, oui, celui de 2021. Oui, il est incompatible, avec, mais il faudrait quoi? Il est pas compatible. C'est parce qu'il est plus très bon, Russell Westbrook. C'est plus Russell Westbrook qu'on a vu il y a 3 ans, en fait. C'est pour ça.
C'est pas Prime Westbrook. À partir du moment où c'est pas Prime Westbrook, qu'est-ce que tu veux dire? Évidemment que... un joueur pas dans son prime et pas compatible avec une autre superstar, oui, parce qu'il apporte de la valeur négative à l'équipe.
Et
mais
puis,
il n'est pas compatible tout seul. Hein.
Et puis, c'est un truc qu'on avait dit depuis longtemps sur la capacité à se renouveler et à vieillir pardon, d'un mec comme Westbrook. Elle sera jamais égale, comme c'est dit dans la question, à celle d'un Curry, qui en fait, de par son shoot et de par son jeu, et on dit, pour ceux qui sont sur YouTube, une nouvelle fois après la première partie, bonjour à Jamorant, le chat de Madiane, c'était sûr que Westbrook allait vieillir, ça va être plus difficile. Après, en fait, moi, ce que j'ai du mal avec Westbrook, c'est qu'on... Alors déjà, j'ai du mal qu'il y ait aucune analyse centriste. C'est-à-dire qu'on est tout le temps dans les extrêmes des deux côtés. Ouais. Et en fait, j'ai du mal qu'on vu ce qui se passe actuellement, qu'on essaye de réécrire ce qui s'est passé avant. Or, c'est pas vrai, quoi. Westbrook n'est plus un très bon joueur de basket, mais on va pas réécrire ce qu'il a fait depuis son arrivée dans la ligue, sous prétexte qu'à 33 ans, après plusieurs saisons au top, il est plus très bon, quoi.
Mais c'est du cherry picking, c'est-à-dire que je pense que Westbrook a toujours été mauvais pour les stars autour de lui, et du coup, dès que j'ai l'occasion de trouver une info, alors que c'est pas du tout le bon diagnostic, c'est juste qu'il est plus bon comme avant. Mais à partir de là, je peux pas lui reprocher. Tu remets Bradley Beal dans les chaussures d'un Paul George à OKC il y a 2-3 ans. Je pense que Bradley Beal, il est très heureux parce qu'il est servi à 3 points ouverts, tranquille, et il peut enlanquiller des tirs ouverts et mettre un paquet de points. Donc je pense qu'en vrai, c'est pas une affaire d'incompatibilité, c'est juste que Westbrook n'est pas bon sur le terrain.
C'est ça. C'est ça qui m'énerve, c'est parce que c'est un discours qu'on a souvent avec, on l'a eu avec Carmelo à un moment, on l'a eu, à Houston, on l'a eu avec Dwight Howard, alors qu'en fait, c'était juste des mecs qui étaient plus dans leur prime. Donc, à la seconde où t'es plus dans ton prime, oui, t'es incompatible parce qu'en fait, tu vas freiner l'autre star. Mais c'est une question qui est propre au joueur. C'est pas tellement celle de son association. Enfin, ça, je pense que c'est assez clair. On continue. Une question de Sixers France. Alors, il nous dit, vous avez 4 heures pour conclure cette question. On n'a pas 4 heures. On a quelques minutes. Depth over talent or talent over depth. Donc, en gros, depth. J'ai toujours du mal avec ce PTH. Hein. Très compliqué, ça. Alors, profondeur ou talent? Talent ou profondeur? Alors, moi, j'ai répondu en une phrase. Talent. On est en NBA. Talent.
Oui. Clairement. Talent. Et je vais aller plus loin que ça. C'est que, avoir une rotation à 10 en finale NBA ne te sert à rien quand LeBron James peut avoir joué, par exemple, sur certains matchs de finale 46 minutes. Ça te sert à rien d'être profond. Mmh. LeBron James, il a fait des matchs de finale à 46 minutes, dans le plus grand des calmes.
Ouais, non, mais après, prendre LeBron comme exemple reste toujours un truc.
Non, mais c'est un exemple, pour symboliser ce truc-là. C'est-à-dire que les stars joueront plus et joueront très longtemps et le plus longtemps possible. Et à partir de là, désolé, mais ta profondeur te sert en saison régulière. Quand c'est les batailles des grands gaillards, c'est les grands gaillards qui jouent. Disons qu'en playoff, si un joueur de ton banc peut t'apporter 10 minutes correctes, c'est déjà bien. Et t'es déjà bien content. Par exemple, Caruso, il a apporté des bonnes minutes. Rondo, il a apporté des bonnes minutes. Les Lakers étaient ravis. Et c'était pas beaucoup, hein. C'était pas énormément, mais c'était des minutes non négatives d'un joueur qui n'était pas parmi tes stars.
Puis cette finale, elle a été entachée par des blessures, mais cette finale Miami-Los Angeles, c'était un peu un cas d'école. Hein. Il y a un moment où, en fait, arrivé au sommet, au plus haut niveau, c'est les stars qui font la différence, en fait. Et quand t'as les deux meilleurs joueurs de ton côté sur le terrain, tu vas probablement gagner le match. Surtout que si t'arrives dans les grosses, grosses batailles de playoffs, tu vas pas y arriver si t'as pas un minimum de profondeur. Mais la profondeur prendra toujours le pas sur le talent prendra toujours le pas sur la profondeur. On va rester du côté des questions des fans de Philly. Peut-on encore être champion sans attirer de superstars via un trade ou une free agency? Question de Sixers France. Question à laquelle j'ai répondu en off, Madiane. Est-ce qu'on a déjà pu être champion sans attirer de superstars via un trade ou une free agency? C'est-à-dire que, à part quelques anomalies historiques, ça existe pas, en fait. Enfin, faut toujours attirer une star par la reconstruction qu'on moque un peu parfois ici, cousu de fil blanc avec des jeunes que t'as développés, etc. Ça existe pas vraiment, en fait. Enfin, André Iguodala, il est MVP des finales, il est déterminant dans le succès des Warriors. Le Thunder d'OKC gagne pas la finale. C'est quoi l'exemple après au 21e siècle?
Généralement, tu l'as drafté généralement. Si ta superstar, tu l'as pas eu par un échange ou la free agency, c'est que tu l'as drafté. Les Warriors, si on devait donner aux équipes que les joueurs qu'elles ont draftés, les Warriors auraient Curry, Thompson, Green, tout pareil. Et évidemment, Iguodala et Kevin Durant ont rajouté encore plus pour qu'ils gagnent du coup 3 titres. Iguodala est déterminant pour le premier. C'est peut-être pas le MVP de finale. On aurait peut-être pu le donner à LeBron James parce que c'était n'importe quoi ce qu'il avait fait. Mais il était déterminant. Après Kevin Durant, est-ce que si Kevin Durant n'est pas là, les Warriors gagnent les deux finales? Pas sûr. pas sûr, on va pas réécrire l'histoire, mais pas sûr. En tout cas, ça te laisse un point d'interrogation. Si les Raptors récupèrent pas Kawhi Leonard via un trade, ben non. Et puis tu remontes. Le Heat de Miami, ben, il y avait LeBron James. Le Dirk Nowitzki, superstar drafté. Kobe Bryant, superstar drafté. Ben non, en fait, hein. Jamais, jamais, jamais. Soit tu
Après,
la draftes.
Parce qu'en fait, il t'en faut plus d'une, en fait, pour gagner le titre. Je pense qu'il y a.
Quand tu la draftes, c'est les Spurs, hein.
Ouais, c'est les Spurs. Il y a peut-être ce sous-entendu, il t'en faut plus d'une pour gagner un titre, et tu draftes très rarement les deux. Enfin, t'es obligé d'en attirer une des deux par autre chose que la draft, en fait. C'est...
Les Spurs ont réussi à drafter une méga superstar, Duncan, et à drafter deux très bons joueurs à côté, et puis voilà.
Deux Hall of
Famer. Ils ont réussi par là.
Ils ont un coach all-time.
Ils ont réussi ça. Mmh. Ils ont un coach all-time. Une superstar de Hall of Famer en avant Guingamp, je peux gagner plusieurs titres. Cleveland, ils ont LeBron James qui re-signe chez eux et Kyrie Irving est drafté, c'est pareil finalement. En vrai, en drafté deux, c'est possible, mais c'est des cas de figure tellement rares finalement. Finalement, l'équipe
aussi.
Qui a le plus de drafté de superstars et la seule qui n'a pas gagné de titre quasiment, c'est OKC qui a drafté trois superstars mais qui n'a pas gagné de titre.
Après, c'est chaud parce que pour moi, l'histoire de LeBron s'arrête la première fois qu'il part, en fait. Donc, c'est comme s'il gagnait avec une autre équipe. Enfin, c'est les superstars draftés qui gagnent avec... Au moment où il gagne avec les Spurs, c'est pas la superstar qu'il est actuellement, Kawhi, en fait. Donc, concrètement, enfin, tu vois, en vrai, faudrait en drafter deux et... Enfin, les conserver les deux, c'est pour moi, c'est utopique maintenant.
C'est même trois, hein, en vrai. À deux, faut que ce soit LeBron James, l'autre superstar, et pour que ce soit LeBron James, l'autre superstar, tu peux te lever de bonne heure. En soi, les Spurs, ils ont trois joueurs de grande qualité. OKC qui ne gagne même pas, en a drafté trois. Ils n'étaient pas à ce niveau-là à cette époque-là. Ils en draftent 3.
C'est ça la nuance.
Les Warriors,
c'est qu'en fait, au moment où
de
Harden
2015,
part,
ils en ont 3 aussi. Hein.
Ouais, mais au moment où Harden part, c'est pas le MVP.
Oui, c'est ce que je dis. Il est pas au niveau. Hein.
Ouais.
Mais n'empêche, pour moi, ça commence à partir de 3. Et puis avant, la ligue était un peu différente, j'ai l'impression. Si on commence à partir près 2010, ça va être un peu différent. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, tu as besoin d'être un poil plus armé qu'avant. Par exemple, est-ce que les Mavericks de 2006, par exemple, qui peuvent gagner, ils ont Dirk, qui est très, 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 très fort, et ils peuvent être en position de gagner. Bon, ils ne gagnent pas, mais là, à la limite, ça aurait pu constituer une exception, et encore, c'est compliqué. En vrai, si tu en draftes plusieurs, pourquoi pas, mais en vrai, généralement, tu en draftes une ou tu récupères tout via trade ou free agency.
De toute façon, si c'est une vraie superstar qui est le cursus honorum de la superstar qui va arriver top 5 NBA, c'est qu'au bout de 2-3 ans, elle est déjà totalement générationnelle. Donc, mécaniquement, elle t'amène en dehors des choix où tu peux en drafter une deuxième, c'est-à-dire en haut. Enfin, c'est mécanique. Enfin, techniquement, ça doit se passer comme ça. Hein, et OK, si, il a prouvé, en fait. Ils sont très, alors, ils ont eu 3 choix, mais en fait, c'est juste un talent incroyable, une chance aussi. Enfin, bref, ils ont eu ça, mais, enfin, en fait, non, mais je pense que la NBA, le mouvement des joueurs s'est accéléré, donc non, on peut plus l'être, mais on n'a jamais trop pu l'être, en fait. Enfin, faut le voir comme ça. Quels ajustements peuvent faire les Nets pour équilibrer leur équipe? Trader Irving est-il utopiste? Je pense que oui. Alors ça, je pense que oui. Trader Irving, c'est utopiste à l'heure actuelle, compte tenu de son contrat, de son arrivée récente aussi, de sa situation peut-être en dehors du basket où il y a pas mal de choses qui ont été dites, donc oui, c'est un peu difficile. Ajustement à l'heure actuelle, je pense que l'équipe est un peu trop... pas encore assez mûre, en fait. On n'a pas encore assez vu de choses. Alors, on a appris qu'Iman Shumpert allait arriver. Idéalement, il leur faudra un pivot défensif. On va voir. Honnêtement, j'étais très sceptique par rapport aux Nets. J'ai vu sur quelques séquences le potentiel nucléaire de cette équipe. Je me suis dit, OK. Mais je pense qu'il n'est pas encore le temps d'équilibrer. Ils vont continuer à jouer déséquilibré et on pourra voir après parce que là, ils ont soit des role players, soit leur superstar. Il n'y a rien entre qui pourrait intéresser quelqu'un.
Tout à fait. Et je pense que malheureusement, la blessure de Mr. Dinwiddie ne fait pas du bien parce que ça aurait pu être quelque chose que tu pourrais changer contre un mec qui n'a pas besoin du ballon pour vivre. En fait, je pense que ce qu'il leur faut, c'est des joueurs forts, mais qui s'en foutent d'avoir le ballon. Maintenant, c'est bon. Enfin, là, ils ont trop de joueurs qui ont besoin du ballon. Ils en ont trois. Et trois monstres avec le ballon. Maintenant, il faut des joueurs bons défensivement. Caractéristique numéro un. Et malheureusement, parce que ce n'est ni la première caractéristique d'Harden, ni la première caractéristique d'Irving, ni ce que tu peux demander à un Durant en ce moment. Je pense que Durant, s'il n'est pas négatif, c'est déjà bien. Et si on peut revoir Durant des Warriors, c'est beau, mais c'est un vœu pieux, quoi. Et je suis pas sûr qu'on l'aura. Donc je pense qu'il te faut des joueurs très bons défensivement et qui n'ont pas besoin du ballon et qui ne sont pas négatifs en attaque. Et ça, autant te dire qu'il y a pas mal de gens qui sont en train de les rechercher. Donc faut attendre. Mais en tout cas, s'il y a bien quelque chose à cibler, c'est ça. Des joueurs bons défensivement et pas négatifs.
Ce qui sont très rares, en fait, que tout le monde
Ouais.
veut avoir
Tout le
quand
monde
tu
veut
joues au
ça.
titre, en fait. Donc c'est ça, non. En attendant, en fait, je pense que là, sur ces deux parties de la FAQ, un peu notre réflexion, c'est ne rajoutons pas de l'incertitude à l'incertitude. C'est-à-dire qu'on est dans des équipes parfois qui ont bougé, attendons un peu de voir comment ça se développe, et puis voilà. Question qui est d'ailleurs liée, parce que ces renforcements pourraient peut-être se faire à travers question des buyouts, question de Johan Tessier, j'espère encore une fois que je l'ai pas mal dit. Ne faudrait-il pas imposer une règle permettant de réguler et endiguer le système de buyout alors qu'il remet en question l'intérêt même du salary cap et la répartition de la compétitivité dans la ligue? Alors, juste pour expliquer, buyout, hein, rupture de contrat, en gros, un joueur quitte son contrat, va signer dans une autre équipe. Je pense pas que ça vraiment que ça transforme la carte NBA, les buyouts. Ça peut être, oui, ça peut être des additions intéressantes pour un contender ou un autre, mais j'ai pas l'impression, je sais pas si tu partages ça, Madiane, j'ai pas l'impression que ça change fondamentalement le destin d'une saison NBA, un buyout. Oui, on a pu en voir qui était intéressant. Ces derniers temps, c'est un peu moins caricatural, mais pour moi, ça remet pas en cause tout le système.
Non, je suis d'accord. Et par rapport à ça, le buyout, enfin, il y a plein de joueurs que tu peux signer au minimum qui sont pas en mode buyout et qui sont intéressants et pas négatifs. Mais pourquoi tu les signes au minimum? C'est souvent même, par exemple, le poste de pivot. Moi, je pense toujours que quand tu es contender, il y a des pivots au minimum qui feront, ou pas très cher, qui feront pas mieux le boulot qu'un pivot que tu signes plus cher. Mais la différence entre ce qu'il faut payer entre un bon et un moins bon pivot de salaire ne se justifie pas dans la quête d'un titre. Et du coup, tu peux trouver des très bons joueurs. Moi, je pense que cette question, c'est notamment, je pense que c'est un des cas récents de buyout, c'est peut-être le cas de Batum qui a dû interroger Johan. Bah, en vrai, Batum, c'est inespéré ce qu'il apporte aux Clippers. En soi,
Totalement.
la valeur de Batum au moment de son buyout, c'est pas ça, hein. Batum, c'est, on va voir ce que ça donne. Il sort d'une saison calamiteuse. La seule fois où il joue, c'est quand c'est à Paris, hein. Le reste de la saison, Hornets, il touchait plus rien. C'est incroyable ce que ça donne. Et c'est très très bien. Mais les Clippers n'attendaient pas autant. Et si d'autres franchises auraient su à l'avance que ça allait être cette valeur-là, t'inquiète pas que la concurrence aurait été très très forte et que peut-être les Hornets n'auraient pas fait de buyout et dans ce cas ça aurait pu finir en trade cette affaire. Quoique vu son contrat plus difficilement, mais bon. En
Beaucoup
tout
plus
cas,
simple.
quoi qu'il arrive, je pense que le buyout c'est souvent des joueurs dont les équipes n'ont pas besoin, qui sont sortis d'un contexte parfois difficile, d'une équipe un peu mauvaise et bah des contenders les récupèrent, mais c'est un peu le recyclage, tu peux tomber sur la bonne pioche. Moi j'ai vu Cleveland récupérer plein de joueurs en buyout, les
Deron
joueurs ne
Williams.
voyaient.
Ah non, ils n'étaient pas en buyout, Deron Williams. Ils revenaient
C'est
de...
peut-être un trade, enfin
Ouais.
c'était. Enfin bref, Derrick Rose il s'est fait balancer au travers de buyout, il y avait plein de choses comme ça. Des fois c'est des joueurs qui n'apportent strictement rien. Donc c'est un peu le... ça peut
C'est un peu
apporter, ça
fantasmé,
n'apporte pas.
ouais. C'est un peu fantasmé, je pense, la
Ouais,
réalité de leur apport.
il y a des gens qui pensent que ouais, regardez cette vieille superstar avec un énorme contrat et buyout, faut se précipiter dessus. Mais pas forcément, hein. Le joueur peut être finalement pas avec une grande valeur pour l'équipe qui va l'accueillir et finalement ne servir à rien en playoff parce que si les buyouts, c'est pas pour rien. Donc non, j'ai pas l'impression que c'est moins mauvais, enfin que c'est pire qu'avant. Surtout qu'avant, moi je trouvais que l'amnistie dans ces cas-là, était un truc bien plus horrible au niveau déséquilibrage. Je donne un exemple. Les Lakers n'ont pas pu faire tout ce qu'ils peuvent, enfin tout ce qu'ils voulaient sur les free agency passés, notamment parce qu'ils se traînent le salaire de Lou Holding qu'ils payent encore. Si on était encore à l'époque de l'amnesty clause, ils auraient été capables de trade Lou Holding à une autre équipe qui se serait lavé du salaire de Lou Holding. C'est par exemple comme ça que Baron Davis de mémoire avait été dégagé. C'est comme ça que Gilbert Arenas avait été notamment dégagé des comptes. Le contrat de Gilbert Arenas est l'un des pires de l'histoire de la NBA, clairement. Et du coup, par rapport à ça, je trouvais ça pire que le système actuel, parce que là, quand tu buy out, en plus, t'es obligé d'étaler le salaire. Donc, il est sur les comptes. Là, je pense que les Lakers exploiteraient bien les 5 millions de Lou Holding.
Je pense que la question était plus dans le sens des équipes qui vont récupérer le joueur après.
Ouais, ouais, genre, mais j'ai préféré voir le système avant aussi.
Ouais, pour les équipes qui récupèrent, honnêtement, encore une fois, je pense que c'est fantasmé. Je me rappelle, Tom, il avait écrit un article sur notre site qui est indisponible à l'heure actuelle, vous inquiétez pas, ça va revenir, qui avait écrit un article, je crois, sur, en gros, je pense qu'il est toujours d'actualité, sur le fait qu'on fantasmait vraiment cette réalité des buyouts, et en fait, il change pas une réalité. En fait, je crois pas que j'adore Nicolas Batum. En plus, les vrais le savent, j'adore Batum. C'est un joueur que j'adore. Je pense pas qu'il va décider de la bataille de Los Angeles à lui tout seul. Je pense vraiment pas. Et honnêtement, le salary cap, je dis ça parce qu'il y a un article qui m'a marqué cette semaine, c'est, alors, l'article est pas bon, hein, mais le titre à accrocheur, c'est est-ce que le salary cap est un mythe? Et c'est par rapport à la NFL, le Super Bowl, c'est le week-end prochain. Et il y a sur le salary cap NFL qui peut être, c'est un article du New York Times, et le salary cap NFL peut être vraiment modelé à des niveaux qui n'existent même pas en NBA, où c'est un peu rigolo, et tu te dis à quoi sert le salary cap. En NBA, c'est pareil, en fait. Enfin, théoriquement, dans l'idéal de la mise en place du salary cap, ça devrait être impossible que les Nets font ce qu'ils font à l'heure actuelle. Ils devraient pas être en capacité d'avoir trois top 15 NBA. Ils le sont. Donc je pense qu'il y a d'autres réformes à faire à l'heure actuelle si on veut vraiment, conserver l'idéal du salary cap que peut-être les buyouts, qui sont, je pense, juste un mini problème à l'heure actuelle. Autre question. Est-ce que l'absence de tête d'affiche chez les rookies hors ball ne renforce pas l'impression qu'ils ont du mal à s'adapter? Alors, selon toi, t'en as pensé quoi de l'adaptation des jeunes joueurs, Madian?
Justement, cette question est très intéressante et je pense qu'on n'a pas assez de recul sur ce qui se passe actuellement en dehors de la NBA. Enfin, l'impact de ce qui se passe actuellement en dehors de la NBA sur la NBA. Les rookies actuels n'ont pas joué depuis très longtemps au sein de leur franchise universitaire. Elles ont été obligées de s'entraîner toutes seules par moment. Certains n'ont parfois pas pu s'entraîner dans de bonnes conditions parce que tout le monde n'est pas forcément apte à avoir son centre d'entraînement personnel, surtout quand on est un universitaire avec peu de ressources. Bon, c'est pas tous, hein. Le haut de la draft n'est pas dans ces conditions, mais faut aussi considérer ces affaires-là pour ce qui peut-être est venu du second tour aussi. En tout cas, ils n'ont pas joué, pas de Summer League. On arrive, allez, prends ton maillot, c'est parti, tu joues avec les grands. Et il y a eu quoi, 2 matchs avant-saison?
Ouais, c'est 3. Ça.
Oui, c'est compliqué, mais en même temps, ils n'ont pas eu le sas de décompression qu'ils auraient dû avoir. C'est pas simple cette période. En plus, on est dans une saison vraiment particulière. Moi, ce que je peux dire, c'est que j'ai eu des très bonnes surprises, comme Wiseman aux Warriors. C'est une très agréable surprise. Je suis ravi pour lui. Après, que les rookies ne donnent pas la plénitude de ce qu'on imaginait sur eux. Maintenant, on est du coup 31 janvier. Je m'y attendais, donc pas de surprise.
Puis je pense que même l'absence de tête d'affiche, comme c'est écrit dans la question. D'ailleurs, une question de BayPof_9. Celle-ci est celle des Nets. Faut toujours dire les pseudos, j'avais oublié. Je pense qu'en fait, justement, c'est peut-être l'effet inverse. C'est-à-dire que ça renforce peut-être l'idée qu'on la voit pas plus belle, mais qu'on est peut-être moins dur. Parce que quand il y a des têtes d'affiche, l'attention médiatique va se centrer sur ces têtes d'affiche et ne va parler que d'elles. Là, vu qu'on savait qu'Anthony Edwards, James Wiseman, ça avait été dit par les spécialistes de draft, que je ne suis pas, on était face à des joueurs qui étaient, c'était pas la classe de draft du siècle, je pense qu'on est beaucoup plus enclin à chercher des bonnes surprises, comme Haliburton du côté des Kings, etc. On cherche beaucoup plus ces petites surprises qu'à l'heure actuelle, et peut-être qu'on leur laisse beaucoup plus de latitude sur l'adaptation, je trouve. Donc honnêtement, je pense pas. Je pense pas que l'absence de tête d'affiche renforce cette impression, parce que globalement, je pense pas qu'il y a pas d'accident industriel pour l'instant, enfin pas plus que les autres années, et je pense qu'on est plutôt, on est bienveillant vis-à-vis de cette classe de draft.
Oui, et moi, je ne suis pas un grand spécialiste, je ne les ai pas vus jouer beaucoup avant qu'ils viennent justement dans la grande ligue, mais ce qui était dit, c'est que c'était une draft de role-player essentiellement, que potentiellement, il y avait pas mal de joueurs qui allaient faire carrière, mais que pas beaucoup ne brilleraient de mille éclats. Franchement, de ce que je vois sur le terrain, ça a l'air très cohérent avec ce que j'ai vu, c'est que je vois des joueurs qui effectivement ont l'air d'être utiles, peuvent apporter des choses, etc., de manière encore très perfectible. Il y a peut-être une star ou deux, comme dit, il y a des drafts un peu comme ça. Moi, je pense par exemple à la draft de Giannis et de Rudy Gobert, il me semble que c'est bien la même.
Ouais,
si
2013.
Je fais une connerie, c'est ma faute, mais normalement c'est bon. Et il me semble qu'on a mis du temps, par exemple, à voir qu'il y avait un monstre comme Giannis qui avait été drafté dedans et qui avait aussi bon défenseur que Rudy Gobert et un joueur aussi impactant aussi dedans. Donc, il faut aussi laisser du temps. Si ça se trouve, on va voir un mec qui a été drafté en 15 exploser. On va faire « Waouh, mais qu'est-ce que c'est que ce délire ?» Donc voilà, laissons du temps. Ils ont eu du mal pour l'instant. Moi, je trouve que au vu de ce qu'on a annoncé, on n'a pas de déception ultime sur cette draft.
Après, je pense vraiment la question, c'était vraiment sur le... est-ce que... En fait, l'impact du manque de tête d'affiche, je pense vraiment qu'il est positif. Je pense vraiment qu'il est positif parce que pour avoir vu comment on juge les classes de draft, dès qu'il y a des têtes d'affiche, on ne parle que des têtes d'affiche et elles vont totalement influencer la façon dont elle va être traitée médiatiquement, cette draft. Donc peut-être que c'est une bonne nouvelle. Et enfin, la dernière qui, je pense, qui était la meilleure question pour conclure, la saison comme elle est actuellement a-t-elle un sens ? Certaines équipes ayant dû jouer des matchs avec la moitié de leur roster absent, parfois même avec plusieurs membres du 5 de départ. Une question de Régis San. Est-ce que la saison actuelle a un sens, Madiane ?
Moi, je pense qu'il est important de jouer, quoi qu'il arrive. Moi, je trouve ça bien que la NBA réussisse sans bulle à faire tenir. On a eu un moment de grande peur où on a eu l'impression que ça commençait à craquer de toutes parts avec pas mal d'annulations. Là, ça a l'air de tenir. Je trouve que ça a un sens d'essayer parce que je pense que c'est la NBA est un divertissement et il faut pas oublier qu'il y a des gens qui bah du coup sont chez eux comme je le suis actuellement depuis bien longtemps et qui ne sortent pas beaucoup. Et ne serait-ce que de pouvoir se poser devant un match NBA, c'est quelque chose de bien. De pas avoir ce manque-là, c'est quelque chose de bien pour les fans NBA à travers le monde. Donc rien que pour ça, moi je trouve que la saison a un sens. Évidemment, c'est pas idéal. Évidemment, des matchs annulés, il y en a plein. C'est n'importe quoi. Je pense que les joueurs de Fantasy League doivent s'arracher les cheveux en ce moment. Néanmoins, c'est bien qu'ils essayent. Et puis non, quand même, on arrive à voir des choses, à voir des tendances, des conclusions. Par contre, je pense qu'avant la mi-saison, on ne pourra jamais tirer vraiment de tendance claire sur beaucoup d'équipes, forcément, parce que la saison l'impose.
Ouais, c'est pour ça. Moi, je suis assez mesuré sur cette question. J'ai envie de dire oui et non. Alors oui, il y a des choses, il y a des gros matchs très intéressants. Le Boston Lakers du week-end dernier, au moment où vous nous écoutez, parce que effectivement, on n'a pas du tout enregistré les deux parties à la suite. Bien sûr que non. Celui-là était super intéressant. Il y a des vraies rencontres à chaque fois, de l'intérêt. Après, je rejoins peut-être ce que veut sous-entendre notre auditeur Régis San, c'est que à l'heure où on enregistre, les Wizards ont 14 matchs joués, les Nets en ont 21. Il y a des... Je sais même pas comment tu peux faire le calendrier sur la deuxième partie de la saison pour garder ce truc qui m'énerve d'habitude, mais cette idée d'équité, je sais même pas comment tu peux vraiment la conserver. Je suis plus réservé que toi sur la capacité de la NBA à bien avoir géré ça parce que, en gros, à cause des protocoles qui sont ce qu'ils sont, hein, on voit bien que c'est extrêmement compliqué. En fait, on n'est pas dans un... Là, la NBA se mord la queue parce qu'en fait, on n'est pas dans un système au football américain. Les matchs sont beaucoup trop rapprochés. Il y a trop de brassage pour qu'en fait, tu puisses contrôler parfois. Donc, je sais pas, en fait, je suis bien sûr égoïstement, oui, c'est intéressant de voir les joueurs jouer. Après, quand t'écoutes certaines interviews, ils te disent vraiment le protocole est lourd, etc. à suivre. Enfin, bref. Je sais pas, je suis hyper partagé en fait. J'arrive à me mettre dedans, mais il y a une part de moi qui me dit t'es un gros égoïste. Bref, je sais pas. Je suis assez mesuré.
Moi, c'est du coup, moi, pour prolonger ça, c'était que j'ai bien vu que côté NBA, j'ai vu quelques articles passer là-dessus, ils se posaient la question de à quel moment il sera acceptable de vacciner les joueurs NBA.
Oui, c'est la vraie question.
Non, mais ça, c'est une vraie question qu'ils se posent, mais vraiment, c'est-à-dire que actuellement, en vrai, si tu fais vacciner tous les joueurs NBA contre le coronavirus, sachant que c'est pas des joueurs à risque et qu'il y a des gens qui en ont besoin, c'est quelque chose que tu ne peux pas faire. Néanmoins, il y a un moment où la question se pose pour eux. Alors, dans un premier temps, ils ont temporisé. Il y a eu des articles à ce sujet en disant, voilà, Adam Silver a dit qu'il ne voulait pas justement faire ça. Mais je pense que la question va revenir malheureusement parce que l'enjeu économique de pouvoir faire tourner cette saison est tellement important qu'ils vont y revenir. Potentiellement, il y a peut-être cette voie de sortie qui permettra d'être un peu plus tranquille vis-à-vis des joueurs NBA.
Ça, c'est venu dans un second temps, hein, si je peux me permettre. C'est devenu parce qu'il y a quand même eu un premier temps, il y a eu 3-4 jours lunaires, où on a quand même sous-entendu l'idée que les joueurs NBA pourraient servir d'exemple en prenant le vaccin. Ce qui est quand même, en termes d'audace, là, on est quand même là-bas, hein. On est quand même très, 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 très haut, j'ai trouvé à ce moment-là. Donc, ouais, je suis assez d'accord. Il y a cette idée qui, clairement, est dans l'idée d'Adam Silver, parce que, on entend parler du vaccin dans l'actualité NBA toutes les semaines. C'est-à-dire que clairement, il y a cette idée-là, et on voit les vitesses de vaccination aux États-Unis, la question se posera peut-être un jour. Après, je sais pas, en fait. Enfin, je suis très... En fait, je remercie le fait qu'on joue dans les salles, parce que je pense que c'est ça qui doit sauver un peu les apparences à l'heure actuelle. C'est ça qui sauve les apparences, parce que, je sais pas, je trouve, je me suis mis dedans, mais j'avoue que j'ai un petit peu de, je me fais honte, parfois, je me dis, Benjamin, quand même, c'est pas très bien, les joueurs sont soumis à des protocoles, etc., extrêmement drastiques. Vous allez me dire, nous aussi, on est soumis à ces protocoles-là. Oui, c'est vrai, mais j'ai l'impression de vraiment, l'idée comme quoi les sportifs sont les derniers gladiateurs, là, j'ai vraiment l'impression de la voir en ce moment. Je sais pas, donc c'est vrai, c'est une saison, on est sur France Culture, hein. Philosophiquement, cette saison, j'ai du mal à l'aborder.
Moi, j'ai beaucoup de mal avec la bulle, je dois avouer, de manière éthique, en disant, putain, on va jusqu'au bout pour jouer la saison et sauver les droits TV, hein. Clairement, c'était pour ça. Hein. Disney ne pensait pas que c'est par hasard que ça a eu lieu à Disneyland. Regardez quelles grandes compagnies sportives sont dans le même groupe et vous saisirez un peu mieux l'intérêt de jouer cette bulle. En tout cas, la bulle, moi, j'ai eu du mal parce que je disais, putain, on les prive de tout pour ça. Et non, mais j'étais en mode...
Pour un Orlando-Milwaukee au premier tour.
Orlando a pris un match.
En plus.
Rien que pour ça, ça valait le coup. Non, plus sérieusement, c'est toujours compliqué. Mais je pense que de toute façon, la Ligue va forcément... de plus en plus se poser la question parce que côté États-Unis, ça a l'air quand même d'être plutôt sérieux niveau campagne de vaccination. Ils ont l'air d'y arriver assez vite. Donc, prioriser les joueurs NBA à un moment, est-ce que ce sera acceptable dans l'opinion publique? Dans l'opinion publique française, je pense que ça choquerait plus. Par exemple, si on vaccinait tous les joueurs de Ligue 1, je pense que ça passerait pas. Dans celle américaine, je pense qu'il y a plus moyen que ça passe et du coup, ça pourrait arriver assez vite pour un peu plus normaliser cette saison.
Mmh. Après, à voir si tu fais pas ça au niveau. On n'est pas du tout des experts de santé. Mmh. Si tu fais ça, si t'attends, les playoffs doivent commencer.
Ah, pour les playoffs, là, t'as un souci. Hein. Tu peux pas te permettre ça.
C'est chaud. Hein. En vrai, c'est honnêtement. Alors, c'est un ordinateur qui le fait, mais mettre en place la suite du calendrier, parce qu'on le rappelle, hein, on n'a qu'une moitié du calendrier pour l'instant. Mmh. Ça doit être un vrai casse-tête. Et là, félicitations NBA. Enfin voilà. Vous avez pu entendre nos réflexions sur la saison NBA. Non, je trouve juste que le parfum, il est bizarre. Genre, c'est quel match? Ouais, le Boston Lakers, la fin de match, je devais être plus emballé que ça. Parce que la fin de match, elle est vraiment énorme. Et je sais pas, avec un public, non, enfin, le match en lui-même, pas la fin de match, le match en lui-même est vraiment énorme. Je devrais être plus emballé par ça. Enfin, je sais pas. Enfin, bref. Sur ce, on va conclure ce mini-marathon, cette FAQ en deux questions qui nous aura pris presque presque 2 heures hein, au total. On vous remercie de nous avoir écoutés. On en fera peut-être une à la mi-saison hein, pour ranking. On ne sait pas trop. On aime toujours marquer la mi-saison. Madiane, je te remercie pour ton endurance vocale pendant ces presque 2 heures. Nous, on se retrouve comme d'habitude dans quelques jours la semaine prochaine pour un nouveau sujet. Écoutez-nous, suivez-nous, abonnez-vous sur YouTube. On vous souhaite un très bon week-end, une très bonne fin de semaine et à très vite. Salut.
Salut.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.